Voilà, j'aimerais introduire notre frère qui va prendre la parole, Claude Dubus, qui est là avec son épouse Isma, c'est ça? Ismen. Donc Claude est un serviteur de Dieu ambulant. Il n'a pas de domicile fixe, SDF. Non, j'exagère. Claude s'est converti dans les années 70, il m'a dit, et il a travaillé avec Douglas Scott, vous savez, le serviteur de Dieu qui a fondé les Assemblées de Dieu en France. Il a fait une étude biblique, école biblique là, dans les Assemblées de Dieu. Il a travaillé avec Jean-Claude North dans les Assemblées pentecôtistes indépendantes. Et là, il travaille à l'EDF. L'EDF, c'est l'Église de Dieu en France. Ah, c'est les sigles, hein. Ah oui, tout à fait, la lumière du Seigneur. Voilà, donc l'Église de Dieu en France est représentée dans 184 pays, je crois, hein, dans beaucoup de pays, un peu comme l'Union des Églises Foursquare, hein, c'est la même doctrine, hein, Union des Églises Foursquare, Église de Dieu, les Églises de Réveil, comme vous avez vu, les Assemblées de Dieu, c'est tous les doctrines basées sur le Saint-Esprit, la Pentecôte. Et voilà. Et il a un ministère où il passe dans les églises pour encourager, pour bénir les églises. Il vient de la Guadeloupe ou de la Martinique? Tu étais en Martinique? Aux deux, en Guadeloupe et en Martinique, voilà. Il y a un grand ami de Claude Ruffo aussi. Voilà, ça vous permet de faire des connexions. Hein, il connaît tous les serviteurs de Dieu en France. Et voilà. Donc il vient aujourd'hui nous parler de la prière et de l'intercession. L'importance de la prière et de l'intercession. Voilà, donc on va le bénir dans le Seigneur, on va l'applaudir pour l'encourager, à nous apporter le message. Voilà. Et on va prier pour cet instant où la parole va être annoncée. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vivante et Seigneur, elle va être apportée par ton serviteur qui va nous l'apporter. Ouvre-nous les oreilles de nos cœurs et que nous puissions le recevoir et la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. Ça va bien? Moi, ça va formidable. Voilà. Je demande au début si ça va bien, parce qu'après, on ne sait pas. Quand j'ai fini, peut-être on n'est plus amis, je ne sais pas, peut-être on va devenir amis. Bah, je suis venu avec madame, nous sommes des jeunes mariés, ça fait seulement 37 ans. Nous avons une fille de 34 ans et un petit-fils de 15 ans. Voilà. Je bénis le Seigneur d'être au milieu de vous ce matin. Et je voulais partager sur ce sujet de la prière parce que et je me rends compte dans mes déplacements dans différentes églises que malgré les années, des enfants de Dieu ont des difficultés à construire une vie de prière. Moi-même, je me suis interrogé assez rapidement dans les années, je me suis converti en 70 et ça a été vraiment une interrogation, la prière. Il faut prier, oui, d'accord, mais comment? Et on lit la Bible, on lit des livres, on essaye de... Et puis on reste un petit peu sur sa faim. Alors, pour m'être interrogé et avoir interrogé le Seigneur, j'ai pu découvrir des réponses, parce que la Bible dit que quand on cherche, on trouve. Vous le croyez? Et nous allons lire dans Néhémie... Ça se trouve entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est un des livres qui n'est pas facile à trouver. Alors, deux chroniques, Esdras, et après, normalement, si vous avez la même Bible que moi, vous tombez sur Néhémie. Deux chroniques, Esdras, Néhémie. Chapitre 1, Je lirai simplement un petit verset, mais comme souvent dans la parole de Dieu, un verset veut dire beaucoup de choses. Avec un verset, on peut aller dans différentes directions. J'ai choisi ce verset parce que c'est celui qui m'a vraiment parlé le plus. Et vous allez voir que dans ce verset, il y a deux dimensions. Deux dimensions dans Néhémie 1, le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis ô Éternel. Souvent nous lisons dans la parole de Dieu et nous passons à côté du message qu'elle veut nous transmettre. Ici dans ce verset, il y a vraiment un message pour devenir un intercesseur. C'est un peu le titre de mon sujet, devenir un intercesseur. Il y a deux messages. Avant que Néhémie ouvre la bouche pour prier, nous voyons qu'il possède deux choses essentielles dans sa vie. La première, c'est qu'il a vraiment la vision de Dieu. Il a la vision de Dieu. Et ça, c'est vraiment fondamental. Nous allons le voir. La deuxième chose qu'il possède, c'est qu'il a vraiment le fardeau de l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos églises. Nous avons une connaissance, nous pouvons citer des versets bibliques, nous pouvons vraiment pratiquement citer des passages par cœur, et avec le temps, si on ne fait pas attention, on accumule une grosse tête et un petit cœur. Vous voyez ? Il vaut mieux avoir un gros cœur et une petite tête à la limite. Que Dieu remplisse notre cœur, que nous soyons des hommes et des femmes sensibles à l'esprit. Néhémie n'était pas le seul à savoir que Jérusalem était détruite au comble du malheur, dans l'épreuve. Mais moi, je vois une chose, c'est que Néhémie, il était le seul dans ces deux attitudes, avant d'ouvrir la bouche pour prier le Dieu des cieux. Tous les Juifs savaient que Jérusalem était détruite au comble du malheur. Mais lui, Néhémie, il était vraiment affecté. Et la question que Dieu nous pose ce matin est celle-ci. Es-tu affecté par mon œuvre? Es-tu concerné par mon œuvre? Es-tu concerné par les âmes qui meurent sans Dieu? Est-ce que ça te concerne? J'ai pu observer dans les réunions de prière d'église, que souvent je reste sur ma faim quand il s'agit d'entendre des chrétiens qui prient pour les âmes. Nos réunions de prière sont souvent centrées sur nous-mêmes. Seigneur, j'ai pas ci, j'ai pas là. Et puis je me dis, mais y a-t-il quelqu'un qui va prier pour le salut des âmes? Alors je me suis interrogé sur ça et je suis arrivé à cette conclusion que on ne prie pas pour le salut des âmes parce qu'on ne les voit pas en nous. On n'a pas la vision comme Néhémie de l'œuvre de Dieu. On a surtout une vision sur tout ce qui nous concerne. Mais les âmes, parce que, voyez-vous, la Bible nous révèle une chose. On ne peut pas prier pour quelque chose que l'on ne voit pas dans l'esprit. Vous pouvez faire des listes de prières aussi longues que vous voulez. Mais il y a une différence si c'est le Saint-Esprit qui nous met dans notre cœur le fardeau des âmes. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous donner la vision de son œuvre. Il veut nous donner le fardeau de son œuvre. C'est à partir du moment où on s'interroge sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas, que le Saint-Esprit est déjà en train de nous parler. Alors si tu es triste parce que tu ne vois pas autour de toi d'âme se convertir, bénis Dieu, ça vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es en train d'être travaillé par l'Esprit de Dieu pour arriver dans ces deux dimensions. Avoir la vision. J'ai pas dit avoir une vision. Parce que je sais que Dieu parle, mais quand j'entends un chrétien qui me dit « Dieu m'a dit », je regarde surtout ce qu'il fait avec ce qu'il croit que Dieu lui a dit. Parce que on juge un arbre à son fruit, n'est-ce pas? J'ai rencontré des chrétiens qui, depuis 70, avaient eu des visions. Dieu leur avait parlé. Mais 20 ans ou 30 ans après, finalement, je me suis dit, ça doit pas être Dieu qui leur a parlé. Non. Parce que ce qu'ils font, ça correspond pas avec la vision. La vision que Dieu nous a donnée dans sa parole. Et j'aimerais lire dans Éphésiens 1, où l'apôtre Paul devait être inquiet au sujet de l'église d'Éphèse, parce que il va voir un manque, et il va dire dans Éphésiens 1, 17, 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que tu veux prier que tu deviendras un homme ou une femme de prière. C'est toujours un projet. Je veux prier. Mais si chaque jour que Dieu fait, je commence pas la journée en me levant plus tôt pour passer du temps dans la prière, dans la méditation de sa parole, je serai toujours un rêveur. Mais Dieu n'a pas besoin de rêveurs qui ne passent pas à l'action. C'est bien d'avoir un grand rêve. Mais il faut s'assurer qu'il y a un moment où on rentre vraiment dans le rêve que Dieu nous a donné. Parce qu'autrement, on n'est pas dans la vision, on est dans l'illusion. Et il faut pas que nous restions toute notre vie, n'est-ce pas, des rêveurs dans l'illusion. Parce que, voyez-vous, Dieu veut que nous puissions grandir. Et c'est grave quand vous voyez des enfants de Dieu qui ont 20 ans, 30 ans de conversion et qui ont encore vraiment des attitudes de bébés spirituels. Peut-être que le matin, tu n'as pas le temps. Il faut aller au travail, il faut aller à l'école, et puis tu te dis, ah, je vais prier ce soir. Et puis le soir arrive, tu es fatigué, tu te dis, mais demain. Un homme de Dieu a dit que le mot préféré de Satan, c'est demain. Et je crois qu'il a raison. Demain. Et les années passent et on ne devient pas ce que Dieu veut. Si nous voulons retrouver le chemin du réveil, il faut d'abord passer par la chambre haute. Il faut d'abord reconquérir notre face-à-face avec Dieu. Il faut que Dieu puisse nous parler pour que nous puissions aller parler aux autres. Charles Finney a dit, c'est une chose de connaître Jésus-Christ par la Bible, c'en est une autre que de le connaître personnellement. Il faut établir une relation verticale pour changer l'horizontale. Il faut que Dieu nous change, il faut que Dieu nous parle, il faut que Dieu nous touche pour que nous soyons utiles et je dirais utilisables. Nous devons combattre chaque jour notre plus grand ennemi, ce n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Parce que si nous ne prenons pas du temps pour nous mettre devant Dieu, eh bien, nous n'allons pas acquérir ces dimensions que Néhémie avait. Que Dieu nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Vous savez, ça ne s'invente pas. C'est dans notre marche avec Dieu que, petit à petit, notre cœur va devenir sensible. Et nous allons, nous aussi, avoir la vision de Dieu qui va nous pénétrer. On ne peut pas prier pour quelque chose que l'on ne voit pas. Et le Saint-Esprit veut nous amener vraiment à ce que cette vision de Dieu nous pénètre, parce que c'est fondamental pour savoir dans quelle direction nous allons devoir prier. Dans Genèse 18, la prière d'intercession d'Abraham, nous voyons que Abraham va intercéder pour Sodome et Gomorre, mais nous manquons l'essentiel. C'est que d'abord, la Bible dit, dans Genèse 18, 17, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il peut mettre sa vision en 2012 pour changer l'histoire de notre pays. Nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes tous concernés par le changement. Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps que le changement, c'est maintenant. Mais il y a longtemps que nous, Église, nous sommes dans la perspective du changement. Parce que le réveil, c'est la réforme. Et le réveil, c'est fait d'abord pour nous, l'Église. Souvent, nous disons, ah, le réveil, c'est quand Dieu va sauver les âmes. Mais Dieu le fait avec nous. Il faut d'abord qu'il touche son peuple, son église, pour pouvoir rallumer le feu et que nous puissions aller apporter l'évangile dans la démonstration du Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. Malachi dit, il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence. Et aujourd'hui, celui qui est à l'extérieur de l'église veut voir la différence. Parce que les paroles, vous savez, toutes les semaines, je suis dans la rue. Je vais au contact des gens. Et depuis les années 70 jusqu'à maintenant, je vois la différence. C'est que bien souvent, les gens vous diront, « Oh oui, l'évangile, oui, j'ai entendu parler. » Mais ça ne les a pas changés. Ils n'ont pas été touchés par la différence. La Bible dit, Jésus nous a envoyés et il a dit pour guérir les malades. La Bible dit guérissez les malades. Mais on peut parler, on peut faire des tas de conférences sur la guérison divine et ne pas avoir le pouvoir sur le terrain de guérir les gens qui sont dans les problèmes. Il vaut mieux avoir la solution, la différence qui fait que nous serons des hommes et des femmes qui changeront l'histoire de notre pays. Ce matin, t'as pas de bol parce que t'as cru qu'on était là pour jouer à l'église, mais ça, c'est fini. C'est fini, en 2012, c'est fini, ça. Comme a dit un homme de Dieu, quand on a connu le feu du réveil, on peut pas se contenter de la fumée. Et on a fini avec la fumée. Maintenant, il nous faut le feu. Fire! Le feu de Dieu. Et si nous sommes des pentecôtistes respectables, nous ne voyons pas les choses autrement que par le feu de Dieu. Il nous faut le feu. Allumé. Oh my God. C'est pas Johnny qui doit chanter ça, c'est nous. C'est nous qui allumons le feu en nous. Le Saint-Esprit veut t'allumer. J'ai 64 balais. Et je vous dis, j'ai pas l'impression d'être usé. Il n'y a pas que les jeunes qui ont la patate. Yes! Parce que l'évangile, ça conserve. Ça conserve. Lorsque je me suis converti en 1970, je sortais de prison. J'ai fait 4 prisons dans mon pays. Je sais ce que c'est que d'être dans le monde, d'être un braqueur. Et Dieu a dit, celui-là, il faut vraiment que je m'en occupe. Et je suis tombé dans la marmite du Saint-Esprit. Et vous voyez le résultat. Il faut, par-dessus tout, veiller sur notre relation avec Dieu. Il faut que notre relation soit de cœur à cœur. Est-ce que tu es sûr que tu aimes ton Dieu plus que tout? C'est ce que Jésus a demandé à Pierre. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il faut que tu sois dans les plus. Il y a 2 possibilités. Pour être un vrai chrétien, il n'y a que une seule des 2 qu'il faut choisir. Il y a les chrétiens qui sont vraiment charismatiques dans le bon sens du terme, et puis il y a les chrétiens asthmatiques. Ils sont fatigués, ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens. Oh, ils peuvent vous connaître, vous réciter la Bible, mieux que nous. Mais alors, au niveau de la vision, moi je les suis pas. Je les suis pas. Il faut que Dieu arrive à pénétrer au plus profond de notre cœur. Et lorsque Dieu dit à Abraham, cacherai-je ce que je vais faire, Dieu lui révèle son intention de détruire Sodome et Gomorre. Autrement dit, Abraham va intercéder parce que Dieu lui a parlé. Il n'a pas intercédé de lui-même. Vous comprenez? C'est toute la différence. Et nous, souvent, nous présentons à Dieu nos sujets de prière tout faits. Et nous voulons que Dieu nous exauce. Et puis on ne voit pas l'exaucement. Alors si tu t'interroges, le Seigneur va te dire, ça c'est ton projet ça, c'est pas le mien. Pourquoi tu veux que je puisse t'exaucer sur quelque chose qui ne correspond pas à ma vision? Un homme de Dieu a dit, il ne faut pas faire entrer Dieu dans notre plan, mais nous devons entrer dans le plan de Dieu. C'est toute la différence. Et le plan de Dieu, il est là. J'insiste ce matin, il est là dans sa parole. Et ceux qui arriveront vraiment à changer l'histoire de notre pays seront ceux qui vont revenir à la pure parole de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante. Oh yes, moi j'aime bien ce verset. Parce que je me dis que quand je vais lire la parole de Dieu, je vais lire quelque chose qui est vivant. Vivant. C'est pas un livre comme les autres. On dit que c'est le seul livre qui est capable de lire dans notre vie. Et c'est vrai. C'est le seul. Il n'est jamais épuisé. À chaque fois que nous le lisons, pas tous les jours, parce qu'on n'est pas tous les jours en forme, mais combien de fois Dieu nous parle? On avait lu pourtant ce passage. Mais d'un seul coup, le Saint-Esprit nous l'éclaire. Et je voulais vous lire un autre passage dans Matthieu 9. Vous le connaissez, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ici encore, nous voyons ces deux dimensions. Jésus voit la foule. Jésus, Dieu sur la terre. Bien sûr qu'il voyait les choses comme son Père. Il voit la foule. Mais comme on a dit tout à l'heure, il ne fait pas simplement que de voir, mais il est ému de compassion. Est-ce que nous sommes émus de compassion pour les âmes qui sont autour de nous? Émus de compassion, le mot compassion en grec, ça veut dire souffrir avec. Et Jésus était ému de compassion parce qu'il voyait que cette foule-là, eh bien, n'avait pas de berger. Et à ce moment-là, Jésus se tourne vers ses disciples et il dit, il faut prier. Il a la vision, donc il va devenir un intercesseur. On ne peut pas prier pour quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut que Dieu puisse nous donner l'illumination. Parce qu'autrement, nous allons rester, frères et sœurs, dans nos églises, des bébés en Christ. Et je crois que souvent, les pasteurs sont obligés de ressortir les biberons au lieu de servir du bon charal. Parce que s'il nous donne un bon charal, un bon Chateaubriand charal, on va pas être capable de le digérer. Alors il faut laisser la tétine. Hein. Il y a longtemps qu'on a fini avec ça. Et nous devons grandir dans les voies de Dieu. Nous devons devenir des héros, des hommes et des femmes qui véritablement ont la place dans l'œuvre de Dieu, qui fait que lorsque des âmes nouvelles vont rentrer, ils puissent trouver des hommes et des femmes qui ont la réponse. Parce que ce monde se pose trop de questions, mais ils n'ont pas de réponse. Jésus, ému de compassion, il va demander à ses disciples de prier. Mais voyez-vous, c'est mon deuxième point. Voir les choses, ça suffit pas. Tu peux avoir une vision exacte de la parole de Dieu, Tu peux faire même de grandes études bibliques, mais si tu ne ressens pas ce que tu vois, ça n'aboutit pas. C'est le deuxième point. Il faut que ce que nous voyons dans l'esprit puisse pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes et que nous ayons le fardeau de Dieu. Frères et sœurs, il faut poursuivre ça. Sentir, comme les hommes et les femmes de la Bible, l'œuvre de Dieu par l'intérieur. Ne pas seulement en parler, mais en être pénétré, en être bousculé. C'est grave de lire la Bible, et puis de ne pas arriver à ce que ces choses nous pénètrent. Qui fait que lorsque tu vas aller, comme d'habitude, faire tes courses dans les grandes surfaces, d'un seul coup, le Saint-Esprit va t'arrêter là. Et il va montrer ces âmes qui sont là, qui remplissent leur caddie, chose qui ne t'était jamais arrivée avant. Tu vas t'arrêter là, et dans les rayons, il va y avoir un esprit d'intercession qui va tomber sur toi. C'est tout le bien que je te souhaite. Et tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive. Tu commences à intercéder pour les âmes. Tu les vois comme jamais tu les as vues. Tu vas rentrer chez toi, tu vas t'enfermer encore avec Dieu. La nuit, tu vas te lever et ton sommeil va être coupé et tu vas en profiter pour intercéder. Tu vas devenir un intercesseur. Et ta femme ou ton mari va venir voir le pasteur en disant, « Pasteur, il faut que tu pries pour mon mari. » Parce que je crois qu'il est possédé. Je crois qu'il est en train de dérailler parce qu'il passe du temps dans la prière, dans la parole. Et tu sais ce qui va t'arriver, ce à quoi tu n'as pas pensé. C'est que ton pasteur va te dire, c'est pour toi qu'il faut qu'on prie. Parce que c'est lui qui a compris. C'est lui qui a compris. Frères et sœurs, nous allons jamais assez passer de temps devant Dieu. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai poursuivi, devenir un homme de prière. Et j'ai honte parce que je me suis converti en 1970 et ça fait seulement 10 ans. J'ai honte que j'intercède vraiment. Je me dis, mais Seigneur, j'ai perdu tout ce temps-là. Et en y réfléchissant, effectivement, je me suis rendu compte que je n'avais pas la vision. Alors, il faut que vous puissiez gagner du temps par rapport à moi. Que ce que nous voyons nous pénètre. Frères et sœurs, ça suffit pas de voir. Il faut que le Saint-Esprit fasse redescendre cette vision, pas seulement dans la tête, mais vraiment dans le cœur, dans les entrailles. Parce que pour devenir un intercesseur, il faut la vision plus le fardeau. Nous avons vu dans ce texte que Néhémie ne va pas prier tout de suite. D'abord, il lui a fallu acquérir la vision et le fardeau. Et c'est seulement après qu'il va ouvrir la bouche. Plus t'as mal, plus tu vas crier. Plus Dieu te touche, plus tu vas crier. Tu vas dire, « Oh Seigneur, tu m'as montré les âmes, mais je ne peux pas vivre désormais sans intercéder pour elle. J'ai appris par votre pasteur que vous allez faire une chaîne de prière. » Ah, ça m'a réjoui. Vous allez en baver, hein? Yes. Parce que là, il va falloir vous engager. Il va falloir trouver du temps. Et de dire, bon, c'est pas seulement mon frère et ma sœur qui doit y aller, mais il faut que moi je trouve du temps aussi pour investir. 24 heures sur 24. Frères et sœurs, je crois sincèrement que c'est le prix que nous devons payer dans nos églises en France pour retrouver l'effusion du Saint-Esprit. C'est le prix. J'ai toujours été contre une église qui prie une fois par semaine et qui vit le restant de la semaine pour lui. Non, c'est pas avec une réunion de prière par semaine qu'on va changer les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est vraiment différente de celle des Actes, de l'église primitive. Aujourd'hui, véritablement, nous avons toutes les puissances des ténèbres qui sont déchaînées dans notre pays. La Gay Pride, mais avant ça, il y a eu, il faut le savoir, le Salon international de la voyance a lieu en France. Et tout ça, ça nous amène les esprits mauvais, les esprits méchants. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, il faut que tu puisses regarder l'ennemi en face et lui dire, c'est fini pour toi. C'est fini que les démons squattent dans notre pays de France. Yes! C'est fini. Parce que tu es là, parce que je suis là, parce que nous sommes là. Il faut qu'il puisse savoir que des hommes et des femmes se dressent devant lui dans la prière et qu'il crie à l'Éternel. Comme les Actes des apôtres ont dit, ô Dieu, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. C'est pas fini, les signes, les prodiges, les miracles, c'est pas fini. Amen. Dieu est vivant. Amen. Sa parole est vivante. Il est toujours le même. C'est nous qui changeons, mais pas lui. Sa vision ne change pas. Et il faut que nous puissions dire, ô Dieu, sache que nous n'allons pas lâcher prise jusqu'à ce que le feu descende. Si vous lisez les livres sur l'histoire des réveils, vous allez toujours voir, je pense à ces deux sœurs qui ont fait venir le feu de Dieu sur le réveil du pays de Galles en 1905. Parce que quand tu commences à prier, il y a danger. Tu sais ça? Il y a danger pour l'ennemi, mais il y a danger aussi pour toi. Parce que si tu commences à prier, le Saint-Esprit va se tourner contre toi. Et il va dire, mais est-ce que toi, tu es juste pour pouvoir ouvrir la bouche devant l'Éternel? Est-ce que tu marches dans la sainteté? Pour que ta prière soit entendue d'en haut? 2 Timothée 2:21 nous dit que d'abord, nous devons être purs et nous sanctifier devant Dieu, afin d'être utile à notre maître. Il se conserve pur, sanctifié, pour être utile à notre maître. Car Dieu, avant d'envoyer, sanctifie, purifie. C'est pourquoi j'ai dit, c'est dangereux quand tu commences à prier pour le réveil. Parce que ça va commencer par toi. Et forcément, le réveil, c'est la réforme. Ça va réformer nos vies, notre manière de vivre. Nous allons soudain être mobilisés par Dieu. Alors, si tu commences à faire de ta maison vraiment une chambre haute, quand tu vas venir dans cette chaîne de prière, tu vas apporter quelque chose. Mais si tu pries pas chez toi, c'est pas la peine de venir dans la chaîne de prière. Tu seras un handicap. Parce que si tu pries pas à la maison, c'est pas la peine de venir prier à l'église. À ce moment-là, on est des hypocrites. Il faut appeler un chat. Un chat. D'abord, dans nos maisons, soyons des hommes et des femmes qui relevons le défi. Il faut que Dieu nous trouve à genoux et que nous intercédons en disant « Oh Seigneur, nous refusons la situation de la France en 2012. Nous refusons la Gay Pride, nous refusons tout, nous refusons les ténèbres, le péché. Nous voulons que ces âmes viennent dans ta maison et nous allons nous tenir devant toi jusqu'à ce que tu envoies le feu. » Et ces deux femmes n'ont pas imaginé que Dieu allait refaire l'histoire avec eux. Quand les chrétiens ont appris qu'elles intercédaient comme ça deux nuits par semaine, elles ont dit, nous aussi, on va prier avec eux. Et pendant un an, dans tout le pays de Galles, dans les maisons, dans les fermes, partout, parce que les églises étaient plutôt fermées, vous voyez, ces deux sœurs ont commencé chez elles, puisque leur pasteur ne voulait pas. Vous avez un pasteur béni, lui, il veut. Ah, ça va vous amener des problèmes. Parce que c'est là qu'il faut relever le défi. Et pendant un an, dans le pays de Galles, les prières sont montées de tout ce pays. Et une des deux sœurs, à un moment donné, a eu la conviction qu'il fallait appeler Oral Roberts. Il est venu, et quand il a commencé à prêcher, le feu est tombé. Le feu ! Il y avait des conversions partout, des miracles partout. Est-ce que vous croyez que Dieu est fatigué pour faire la même chose aujourd'hui ? Non. C'est pas lui qui a changé. C'est toi, c'est moi. Nous lisons la Bible avec un tel décalage, un cœur si lointain, qu'à la limite, on ne se sent même plus concerné par ce que l'on lit. Il faut retrouver les actes des apôtres, cette simplicité. Et pour cela, nous devons construire avec Dieu. La vision plus le fardeau. Mon frère, ma sœur, jamais tu dois accepter que ce que tu lis dans la parole de Dieu, que ce que tu entends, ça glisse comme l'eau sur les plumes du canard. Ça concerne ton voisin et ça te concerne pas. J'espère que quand tu vas sortir tout à l'heure, tu vas transporter avec toi ce que tu as entendu. J'espère qu'en ce moment, tu es en train de passer un sale quart d'heure. Et j'espère... Bon, j'espère tellement de choses. Que Dieu nous touche et qu'il nous change. Que chaque réunion nous transforme. Parce qu'autrement, nous avons un manteau de religiosité. Alors, je voudrais conclure en pensant au psaume 77, le verset 2 qui dit encore une courte phrase, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ah, ça m'a arrêté ça. Je dis, mais pourquoi il crie? Pourquoi c'est pas marqué ma voix s'élève à Dieu et je prie? Non, il crie. Il crie parce qu'il a mal. Et c'est là où le Saint-Esprit veut nous toucher. La parole de Dieu, c'est comme Saint-Aul. Ça fait du bien là où ça fait mal. Si ça fait mal, c'est bon. Oui, parce que souvent, nous, on va lire dans la parole pour être bénis. On veut se sentir bien, quoi, quand on a fini de lire la parole. Et puis là, voici que tout change. On est ému de compassion. Mince, on a passé un sale quart d'heure. Oui, t'es passé dans le bureau de Jésus. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas passer dans le bureau de Jésus. Et il y a des moments comme ça où Dieu fait le point avec nous. Nous dit, dis donc, depuis le temps que tu vas dans ma maison là, t'en es où? T'en es où? Alors il est obligé de sortir la râpe, vous voyez? La râpe. Et puis il est obligé de... Parce qu'on n'a pas bien compris. Si vous bricolez à la maison, bon, il y en a ici, forcément, ça leur est arrivé, paf, un coup de marteau ou un coup de tournevis sur le doigt. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Oui, c'est normal. Ça fait mal parce que... Mais c'est un peu ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous faire sentir sa parole véritablement par l'intérieur. Et que nous puissions partager les souffrances de Christ, parce que si on les partage pas, qu'est-ce qu'on va dire au monde? Quand nous disons que Jésus est mort à la croix, qu'il a donné sa vie, mais si on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, ou c'est simplement une formule, ça ne touche pas. Alors le Seigneur dit, comme il dit à l'apôtre Paul, il dit à Ananias, vous savez, il y a des chrétiens, ils veulent être appelés par Dieu. Bon, moi je suis d'accord. Mais faut faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut nous faire du mal, parce que, dans le bon sens du terme, parce que quand vous voyez, quand Dieu appelle Paul, il dit à Ananias, je lui montrerai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Waouh, un appel comme ça, hein. Je sais pas s'il y a des volontaires là. Et quand vous voyez tout ce que Paul a souffert, il n'était pas là, hein, quand le Seigneur a dit ça à Ananias. Parce que s'il l'avait su, Dieu ne peut pas nous utiliser, frères et sœurs, si nous sommes détachés, lointains de la réalité de sa parole. Il peut pas. Alors il va enfoncer encore un peu plus. Nous savons tous, par exemple, que le feu, ça brûle. Hein? On s'est peut-être même déjà brûlé les uns et les autres. Mais on ne le sait pas mieux que quelqu'un qui s'est brûlé. Vous comprenez? Si vous expérimentez que le feu, ça brûle, la prochaine fois, vous allez faire attention. Alors, une histoire, parce que parfois c'est nécessaire. Un vieillard aveugle de naissance prend un enfant auprès de lui et il lui demande de lui expliquer qu'est-ce que la lumière du jour. Et l'enfant, lui, c'est évident, il ne va pas expliquer la lumière scientifiquement, il va simplement dire que la lumière, elle existe, qu'il la voit, qu'il en bénéficie. Autrement dit, il parle à partir de l'expérience, pas de la connaissance. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs, de parler par l'expérience. Si un enfant de Dieu te demande aujourd'hui combien de temps tu passes dans la prière par jour, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Est-ce que chaque jour tu as une lecture méditée de la parole de Dieu? J'ai pas parlé de lecture, j'ai parlé de lecture méditée chaque jour. Parce que si tu le fais pas, ce sont les deux rails du succès, la prière et la méditation de la parole. Si tu n'as pas ces deux rails, tu dérailles. Oui, nous avons trop de chrétiens qui ont déraillé. Parce que le temps finit par nous rattraper. Et nous ne pouvons pas vivre autrement la vie chrétienne que par le surnaturel. La vie chrétienne n'est pas faite pour vivre, pour être vécue par le naturel. Il nous faut sans cesse un contact, une relation avec Dieu, une illumination, une révélation. Parce qu'autrement, ça veut dire que nous reculons. Et pour terminer, je vous montrerai dans une prière de la Bible, dans 1 Samuel 1. J'aime bien cette prière de Anne, parce que là encore, nous retrouvons ces deux dimensions. 1 Samuel 1, verset 10. L'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel. Stop. On peut pas passer comme ça. C'est des versets comme ça. Il faut les encadrer. L'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel. Si vous enlevez l'amertume, elle prie pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut d'abord que le cœur soit touché. Et la bouche, le cœur va s'ouvrir. Alors, si tu sens que tes moments de prière sont... c'est froid. Tu sens que il manque quelque chose. Et que même avant de prier, tu vas avoir plus l'impression de faire une récitation qu'une prière qui vient du cœur, il faut t'arrêter. Il te manque l'essentiel. La vision n'y est pas. Ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Et si tu insistes, tu vas prier, tu vas devenir un religieux, mais pas un intercesseur. Il faut d'abord combattre avec ton Dieu sur la montagne. Il faut monter sur la montagne. Il faut avoir envie de monter. Et il faut le rencontrer en disant, Seigneur, non. Moi, je peux pas prier et puis finalement, je ressens rien. Il faut que moi aussi, je puisse avoir l'amertume dans l'âme. Et tout au long de cette prière, verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder, quoi? L'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Verset 12, faut souligner, comme elle restait longtemps en prière. Qu'est-ce qui fait que elle reste longtemps dans la prière? C'est parce que sa prière est alimentée par la vision. Sa prière est alimentée par le cœur. Quand tu commences à intercéder comme Dieu le veut, quand tu auras fini de prier, tu vas regarder ta montre, et tu vas dire, oh, ça fait une heure que je suis là. J'ai eu l'impression que ça faisait 5 minutes. Parce que justement, ta prière est alimentée par la vision de Dieu qui est en train de te travailler. Et comme a dit Gandhi, il vaut mieux mettre son cœur dans sa prière sans trouver les mots que de trouver les mots sans y mettre son cœur. Frères et sœurs, est-ce que notre cœur est dans notre prière? Est-ce que notre cœur est ce matin présent dans la maison de Dieu? Est-ce que chaque jour notre cœur est présent avec notre Dieu? Ou est-ce que nous nous laissons manger comme les païens? par les choses de la terre. Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Oh, quel beau verset. Et elle dira à la fin du verset 15, « Je répandais mon âme devant l'Éternel. » Je répandais mon âme devant l'Éternel. Mes frères et sœurs, souvent je vous invite à lire la parole de Dieu à l'envers. Peut-être que ça va la remettre à l'endroit. Parce que si vous lisez tous ces versets à l'envers, je répandais mon âme devant l'Éternel. Mais il faudrait que l'âme ait quelque chose à répandre avant qu'elle se répande devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai rien dans l'âme, si toutes mes connaissances sont théoriques, intellectuelles sur Dieu, ça va rien produire. Il y a une différence entre parler sur Dieu et parler de Dieu. Attention. Les religions historiques nous parlent sur Dieu, mais nous, nous parlons de Dieu. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous ne sommes pas dans une religion historique, nous sommes dans une relation authentique. Alors tu vois, ce matin t'as cru t'aller passer un bon moment, mais tu passes un sale quart d'heure. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien là où ça fait mal, là où ça dérange. Vous savez, il y a des églises, ils ne m'invitent pas deux fois. J'ai eu du mal à m'y faire, mais maintenant je suis habitué. Mais je bénis Dieu parce que je vois que vous êtes un auditoire qui comprenait les choses de Dieu. Nous allons prier. J'ai fini. Nous allons prier. Nous allons nous mettre devant Dieu en ces instants et faire notre propre bilan. Seigneur, nous ne voulons pas te servir dans la religiosité, mais dans la relation. Nous voulons nous souvenir de notre premier amour et nous poser la question, où est-il? Est-il toujours là? Quand nous t'avons connu, on courait aux réunions. On lisait la Bible avec passion. On priait avec notre cœur. On n'avait pas de connaissances, mais on avait la relation. Et nous voulons redevenir comme ces petits enfants devant toi qui demandent toujours au Père, qui ne s'appuient pas sur leur force et leur connaissance, mais qui chaque jour attendent une parole de Dieu, un miracle de Dieu, un attouchement de Dieu, une révélation de Dieu. C'est ce que tu veux pour ton peuple en 2012. Et c'est ce que nous voulons. Que tu bénisses ta parole, que tu nous donnes d'entrer dans les dimensions qu'elle nous propose, par ta force, parce que nous savons que si nous sommes touchés par le feu de Dieu, le feu va descendre, il va passer à travers nous, et nous allons avoir une passion pour ton œuvre. Une passion pour les âmes qui va nous faire sortir de l'ordinaire pour toucher l'extraordinaire. Aide-nous, car nous avons encore un long chemin à parcourir. Dans ces années difficiles où peut-être nous verrons la manifestation de l'Antichrist, il nous faudra être forts, fervents et zélés pour tenir devant la persécution. Nous voulons garder la foi de la parole, la foi de Dieu. Nous voulons proclamer cette parole qui ne fait pas exception de personne, qui ne fait pas de compromis Et comme l'apôtre Paul, nous voulons défendre l'évangile dans ce temps de paganisme. Nous voulons être connus comme des porteurs de lumière, au nom de Jésus, ton Fils, comme des hommes et des femmes qui passent du temps devant l'Éternel. Que nos maisons deviennent des chambres hautes, que nos églises deviennent des chambres hautes, au nom de Jésus, ton Fils, ton Saint Serviteur. Amen.